Alors, je vous propose qu'on commence. Alors, j'attends Pierre Pellot, qui est donc mon associé aux éditions du Lambrequin. En attendant, je vous propose des extraits des trois livres. Tigeant et la sorcière du Cap Salambert part d'un parcours initiatique à l'île de la Réunion, mon pays d'origine. Fragments de vie scolaire, parole d'ado, parle des bonheurs et des malheurs de l'adolescent à l'école et dans son quotidien. Suivi des funérailles de la cigarette. Les funérailles de la cigarette parlent des méfaits du tabac. Donc une manière moderne d'expliquer aux jeunes ce qu'apporte le tabac. Et le troisième livre, c'est une adaptation des fables de La Fontaine. Donc je propose donc aux jeunes, à Madeleine Prouvé et à Lucille Labrousse, de commencer par Le lièvre et la tortue.
Bonjour, bonjour. Je suis très attendue, je vois. Cela me fait très plaisir. Quelques petits rappels, si vous le voulez bien. Voici mon palmarès. Marathon du Médoc, premier. Marathon de Paris, encore premier. Marathon de New York, toujours premier sur des milliers. Aujourd'hui, on m'a conviée au cross du lycée régional. Broutille. En fait, je suis invitée en tant que guest star. Veuillez comprendre en langage clair. Star invité. Pourquoi pas? Il faut bien montrer aux jeunes ce qu'est le talent et la gloire. Il faut servir d'exemple. J'en suis un, n'est-ce pas? Tiens, tiens, il y a vraiment du beau monde par ici. Monsieur le chef d'établissement, saluons-le. Oh, il s'avance vers moi. Monsieur le maire de la ville de Bordeaux. Monsieur le notaire. Monsieur le médecin, monsieur le pharmacien, monsieur l'évêque, ma notoriété est donc arrivée jusqu'ici? Tiens, on me fait signe, j'accours.
Oh là là, je suis fatiguée avant d'avoir commencé. Les jeunes m'ont invitée à participer à ce cross. Ils m'ont assuré que j'avais ma place ici et qu'il était écrit que les derniers seraient les premiers. Je dois vous avouer que je n'ai pas vérifié, car je ne sais pas lire. Ce sera la première fois que je participerai à une course. En fait, cela me fait très plaisir que l'on ait pensé à moi. Merci. Merci beaucoup à tous. Quelle est cette énergumène qui salue tout le monde? Ah, c'est peut-être lui, la star. Bonjour mon ami.
Nous nous connaissons? À qui ai-je l'honneur?
Je suis Mademoiselle Tortue Tardive. Et je suis votre concurrente.
Vous devez faire erreur. Nous allons courir et je ne vois vraiment pas. Veuillez me pardonner.
Taratata! Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Nous serons un témoignage de cet adage. Gageons que vous n'atteindrez point si tôt que moi ce but.
Sitôt, êtes-vous sage?
Oui, animal léger.
Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Je n'ai que 4 pas à faire.
Sage ou non, je parie encore.
Mettons près du but les enjeux. Venez, suivez-moi.
Les coureurs doivent se mettre en piste immédiatement. La course démarre dans quelques secondes. À vos marques, prêts, partez!
Oh, j'ai bien le temps. Cette tortue est aussi rapide qu'une limace. Amusons-nous un peu. Bonjour, comment allez-vous? J'ai une petite faim. Une carotte fera mon 4 heures. Laissons la tortue aller son train de sénateur. Reposons-nous un peu afin de mieux goûter notre gloire.
C'est dur, mais j'y arriverai. Foi de la tortue tardive.
Franchement, je suis venue ici pour leur faire plaisir. Une telle victoire ne mérite que peu d'efforts. Il y va de mon honneur de partir tard. Amusons-nous à autre chose que cette gageure ridicule. Aïe, je dois partir comme un trait. Aïe, mes élans sont vains. La tortue est arrivée la première.
Eh bien, N'avais-je pas raison ? De quoi vous sert votre vitesse ? Moi ? L'emporter ? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?
Oh là là, la presse arrive ! Vite, filons d'ici en vitesse !
Merci. Merci beaucoup à vous tous. Et à l'année prochaine, s'il plaît à Dieu.
Cela fait une heure que je cours après ce corbeau qui n'arrête pas de voler d'arbre en arbre. Je suis épuisée, mais je ne suis pas vaincue. Ce corbeau, ce maître corbeau, devrais-je dire, tant il fait le fier avec son trophée, se perche toujours sur la branche la plus haute. Il tient dans son bec un fromage qu'il a dérobé dans la ferme voisine. Ah, le chanceux ! Comme à mon habitude, j'ai le ventre creux et j'ai faim. J'ai toujours faim, hélas. On se méfie trop des renards et pas assez des corbeaux. Ah, cette odeur qui m'allèche, je n'arrête pas d'y penser. Après tout, moi aussi, je suis un maître dans l'art de feindre. On pourrait même m'appeler maître renard, pourquoi pas. Je pourrais lui tenir à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Oh, que cela sonne juste. Il faut d'abord que je le trouve et que je mette mon plan à exécution. Oh, j'ai de la chance. Le voilà qui s'amène par ici. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Vous ne me répondez pas ? Ma parole, il tient dans son bec un fromage et il le tient fort. Recommençons sans perdre patience. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. C'est pas vrai. Il est impassible, on dirait une statue. Peut-être est-il sourd. Continuons, qu'ai-je à perdre ? Plutôt, qu'ai-je à gagner ? Beaucoup, surtout un bon repas qui sent bien bon. Où en étais-je ? Ah oui, que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Je sens quelques frémissements, mais m'aurait-il enfin touché son cœur ? Je le sens tout ému. Ses poumons vont éclater, c'est sûr. Le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Je suis si heureux d'avoir un ami. Quel bonheur ! Là ! Quoi ? Qu'est-ce ? Ce n'est pas possible !
Vite, saisissons-nous de ce butin. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Adieu. Être patient vaut bien son pesant d'or, n'est-ce pas ?
Non, mais ce n'est pas vrai ! Quel traître ! Quel scélérat ! Je me suis fait avoir comme un débutant. Dire que j'ai risqué ma vie à la ferme et que mon butin revient à ce renard ! Tout cela par mon manque de jugement ! Je suis honteux et confus. Je jure qu'on ne m'y prendra plus. Je l'ai vu me suivre et je n'y ai pas porté attention. Tant je cherchais la tranquillité pour déguster mon fameux fromage. Je reçois si peu de compliments que j'ai été transportée de bonheur à ses seules paroles. Quel trompeur ! Quel voleur ! Il devrait être puni par la loi. Je devrais me plaindre, mais à qui ? On me tournerait en ridicule et j'aurais plus honte encore. En plus, ce fromage, je l'avais gagné, il m'appartenait de plein droit. Voyons, je peux voler et essayer de le récupérer. Bonne idée. Il a tout avalé ? Je ne peux rien reprendre. Ah non, cela ne se passera pas comme cela. Eh, vous, le voleur, veuillez me rendre mon bien, je vous prie, avec tout le respect que je vous dois.
Vous me parlez ?
Oui, et vous le savez bien, ne faites pas l'innocent. Rendez-moi mon fromage tout de suite, ou...
Ou quoi ? Qu'allez-vous faire ? Iriez-vous vous plaindre à la fermière ?
Vous seriez quelque peu honnête. Vous me rendriez mon bien que je garderai précieusement.
Je suis désolée, je ne vois rien ici qui vous appartienne. Vous devez vous égarer, monsieur. Je vous souhaite le bonsoir.
Il ne s'en tirera pas comme cela, moi je vous le dis. Je vais raconter cette histoire à tout le monde, même si je dois passer pour un idiot. Afin que toujours, on se méfie du renard. Adieu.
Écrire cette histoire me plonge dans le passé comme si je traversais le temps. Je pars pour un grand voyage et je vous amène avec moi. amis qui m'écoutez. Cette histoire se déroule à l'île de la Réunion, ancienne île Bourbon, au tout début de son peuplement, vers les années 1800, et prend naissance dans le village côtier de Grandbois. La vie est relativement paisible à Grandbois. Mais voilà. Depuis quelque temps, un gobelin, vieux de quasiment pas d'âge, est sorti de sa tanière souterraine et s'est montré. Ce gobelin, du nom de Salambert, a débarqué avec le Santa Apolonia, bateau portugais conduit par Don Pedro de Mascarenhas, qui a découvert l'île en 1640. Salambert fuyait son groupe de gobelins qu'il avait condamné à mort pour un acte non justifié, paraît-il, au Portugal. Du moins, c'est ce que l'on raconte. L'île était vierge, riche en bêtes et en fruits. Le vrai paradis pour Salambert qui décida d'arrêter ici son voyage clandestin. Salambert creusa son repère très profond dans la terre. Mais la lave du volcan, le réchauffant toujours un peu plus, il arriva un jour à la surface du sol. Là, il prit l'habitude de venir respirer l'air frais et s'asseoir au bord de l'eau. Les habitants de Grandbois, d'abord effrayés par un homme aussi laid, s'habituèrent à lui. Après tout, il ne faisait de mal à personne. Il avait le regard violent, comme s'il allait vous dévorer. Mais jamais il n'avait approché un villageois, petit ou grand, ni même ne lui avait adressé la parole. Un jour, alors que Salambert se roulait dans les vagues, il entendit un chant merveilleux qui venait de la mer. Il se demandait ce qu'était ce chant. Devenait-il fou ? Il sortit de l'eau. Salambert n'avait pas prévu ce qui allait à suivre. Un banc de sirènes s'était approché pour voir la côte et l'une d'elles l'avait séduit pour s'amuser en lui jetant un sortilège d'amour.
Mesdames, messieurs, chers concitoyens, bonsoir. C'est un grand honneur et un immense privilège pour moi de vous déclarer officiellement la mort de la cigarette ou l'arrêt de sa fabrication par tous les États de l'Union européenne. Je vous rappelle les raisons profondes qui ont conduit tous les chefs d'État à cette décision incontournable et irréversible. Au-delà des cancers qui se multiplient et qui déciment la population âgée de 15 à 40 ans, soit 8000 cas par an rien qu'en France, la planète, notre planète, est en grave danger à cause du tabac. En effet, en 2010, il fallait un hectare de bois pour sécher un hectare de tabac, et ce pour 40 000 hectares de culture dans le monde. Aujourd'hui, aucune nation ne peut consacrer autant de ce combustible à des fins, somme toute, meurtrière, alors que le manque de bois et d'oxygène alerte la planète entière. Les catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique ces dernières années exigent de nous une conduite vigilante, économique et des actions réfléchies, saines et indispensables pour tous. L'arrêt de la fabrication de la cigarette n'est pas uniquement une affaire d'État, c'est l'affaire de tous. J'imagine le désespoir qui vous anéantira, vous, fumeurs, lorsque la cigarette, ami, vous manquera. Je lis la tristesse qui vous habitera lorsque, pour vous évader d'une situation difficile, une bouffée de fumée n'existera plus pour vous soutenir et vous détendre. Pour beaucoup d'entre vous, notre décision qui doit être la vôtre maintenant se révélera injuste. On ne saurait oublier la célèbre Madame de Maintenon qui calmait ses migraines par le tabac, ou encore tous nos soldats qui ont trouvé réconfort et paix auprès de cette compagne solidaire. Nous n'oublierons pas non plus qu'une feuille de tabac a parfois comblé la faim d'hommes sans ressources. Mais ce tabac a évolué aujourd'hui, dans des proportions inacceptables, provoquant trop de souffrances, trop de pertes. afin d'honorer de manière solennelle et événementielle la fin de cette dame qui est la cigarette, j'ai décidé que chaque ville qui le souhaiterait organiserait des funérailles nationales dans un lieu public de son choix. Nous devons faire de ces funérailles non pas une complainte à la mort, mais un retour à la vie de l'après-cigarette. Rappelez-vous que cette décision a été votée et appliquée par intérêt universel. Ne vous attardez pas sur la mort de la cigarette, mais sur votre propre résurrection. Chers concitoyens, Français, Françaises, bonsoir. Vive la République, vive la France.
Oui, je suis une fille. Et j'ai bien le droit de fumer, non ?
Je suis désolée, mais je trouve qu'une fille a un caractère un peu précieux et que fumer dérange. Tu vois ce que je veux dire ?
Pas du tout. Tu as entendu parler de l'égalité entre les sexes ?
Oui, mais cela concerne le travail, les diplômes, la vie en général.
Et fumer ne fait pas partie de la vie en général. Alors, parce que je suis une fille, je devrais me cantonner à manger des sucettes.
Je ne comprends pas ton agressivité. Je t'explique juste mon point de vue. Tu es super mignonne, toujours chic, avec de beaux habits. La cigarette est de trop.
Qu'est-ce que tu peux être ringarde, ma pauvre Jeanne ? Toi qui veux faire Sciences Po dans 2 ans, j'espère que tu ne tiendras pas de tels discours. À l'oral, tu te fais rétamer en moins de 2.
Ne monte pas sur tes grands chevaux. Tu es mon amie, je te parle comme je l'entends, c'est tout. Je ne dirai pas la même chose à une inconnue.
Oui, mais tu me blesses.
C'est parce que je t'aime bien que je dis que tu n'as pas besoin de fumer. Je la blesse, c'est la meilleure, celle-là.
Je veux pouvoir tout faire comme les garçons. Je ne suis pas en rivalité avec eux. Mais pourquoi eux et pas moi ? Si c'est bon pour eux, c'est aussi bon pour moi.
Et voilà, on y vient. Sais-tu que chez les jeunes, il y a plus de fumeuses que de fumeurs ?
Et alors ?
Les filles portent des bébés, si tu veux tout savoir. Lorsqu'une fumeuse met au monde des bébés, il y a des risques de grands prématurés, avec des problèmes respiratoires importants, des problèmes cardiaques, et j'en passe.
Je ne fume pas beaucoup, et puis je ne fumerai plus quand j'attendrai des enfants.
C'est ce qu'on dit. Alors pense à ton avenir et arrête-toi maintenant. Tu ressembles à quoi avec ton paquet de cigarettes ?
Je vais y réfléchir, mais tu me casses les pieds avec tes prématurés.
Je t'ouvre les yeux, Alice. Ça sert à ça, les amis.
Alors, on vous a lu des extraits, donc merci à toute la petite équipe. On vous a dit des extraits donc, de ces 3 premières pièces qui ont été éditées par les éditions du Lambrequin. Alors, donc, je suis Nicole Denépoux, je suis comédienne au départ, comédienne, metteur en scène, et j'écris depuis une 20aine d'années. Au départ, quand j'ai commencé à faire de la mise en scène pour le jeune public, j'ai cherché des textes. Et souvent, il m'a fallu les adapter parce que la méthode, on va dire, ancienne, entre guillemets, il y a des institutrices et des enseignants qui sont là, donc dans la méthode un peu classique ou traditionnelle, il y a un héros, une héroïne, il y a des personnages secondaires et après, il y a des petits personnages, on va dire, qui n'ont qu'une phrase ou 2 phrases à dire. Or, les élèves veulent avoir du texte, avoir le premier rôle et être présents dans la pièce. Vraiment présents en ayant du texte. Donc, aujourd'hui, nous demandons aux enfants d'être brillants, d'être concurrentiels. On leur demande d'être premiers. Donc, quand ils sont au théâtre, ils ont envie d'être premiers. Parce que ça fait partie de ce qu'on leur demande. Donc, eux aussi, ils ont une demande. Et j'ai trouvé que cette demande était légitime. Donc, au départ, j'ai adapté des textes. J'ai rallongé. Et puis, un jour, je me suis dit, donc il y a un nombre d'années certains maintenant, je me suis dit, bon, ben, il faut que je passe moi-même à l'écriture. Et j'ai commencé humblement. Et puis, aujourd'hui, j'ai écrit 30aine de textes. Voilà. En direction de la jeunesse. Tous. Allant de 8 ans, pour des enfants de 8 ans, jusqu'à des lycéens et pour étudiants également. Voilà, donc on peut trouver ces textes donc en tapant sur, déjà en venant chez Mola, puisqu'ils nous font le plaisir de nous accueillir. et puis après aussi directement aux éditions du Lambrequin. Voilà donc la naissance de pourquoi ces textes, pour répondre à la demande des enfants. Ensuite, les sujets. Les sujets, il y a des créations, donc comme Tigeant et la sorcière du Cap Salambert, il y a Noah et l'arbre à palabres qui sortira cette année, il y a un certain nombre de textes, des créations pures, en fonction donc des enfants avec qui je travaille. Et il y a aussi des adaptations. Vous avez donc ici les Fables de La Fontaine. Les Fables de La Fontaine sont jouées dans toute la France et dans tout le monde entier. Et souvent, ce sont les fables elles-mêmes. Alors, je pense que vous savez que la première personne qui a écrit ces fables s'appelle Pilpay. C'est un Indien qui a écrit ces fables à la demande de Maharaja pour éduquer les princes. Ensuite, c'est sorti de l'Inde, les textes sont sortis de l'Inde, sont passés par la Turquie, sont arrivés jusqu'à Ésope, et La Fontaine les a repris, donc d'Ésope. Et donc il me semblait, en toute modestie, pouvoir les réadapter au goût du jour dans un langage quotidien. Et si vous prenez le livre... Donc vous verrez que j'ai gardé les phrases clés de La Fontaine. Elles sont en gras et en didascalise. Pas en didascalise, en italique. Voilà. Parce qu'il m'a semblé que c'était important que les élèves retiennent les phrases de La Fontaine. Voilà, il y a des phrases comme la cigale, dans La cigale et la fourmi. La fourmi n'est pas prêteuse. Enfin, vous les retrouverez. Dans Fragments de vie scolaire, paroles d'ado, là, j'ai répondu à une demande d'enfants, une demande d'ado, qui m'ont dit on ne veut pas jouer de classique, on ne veut pas, on voudrait vous suggérer nos envies. Et donc, j'ai écouté les envies. Ils avaient envie de critiquer ce qu'ils étaient, critiquer les autres. Et je leur ai dit, bon, ben d'accord, on va critiquer, mais on va critiquer de manière positive. C'est-à-dire, vous allez dire ce qui ne va pas et vous allez dire qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et nous avons travaillé sous forme d'improvisation. Improvisation à partir de mots, improvisation à partir de sujets qui leur tenaient à cœur. Improvisation dans les dialogues, sur la colère, sur l'amour, sur la haine, sur ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et donc, je suis arrivée à ce texte « Fragments de vie scolaire, paroles d'ado ». Dans ce texte, il y a un adulte qui intervient, un adulte enseignant, et une dizaine d'adolescents. Pour les funérailles de la cigarette, j'avais écrit ce texte pour un court-métrage, parce que souvenez-vous, quand il a été interdit de fumer dans l'enceinte de l'école, dès lors, on avait autour de toutes les écoles de Bordeaux et d'ailleurs des enfants, jeunes, moins jeunes, lycéens, des enseignants, des surveillants qui fumaient autour de l'école et je trouvais que ce n'était pas une très très belle image. Et j'ai voulu écrire ce texte. Bon, c'est le énième texte qui met en garde contre la cigarette. Et je me suis dit, comme nous travaillons avec des ados, bah, peut-être qu'ils pourraient en parler. Bon, je vous rassure, les ados qui fumaient avant ce film fument toujours. Donc, alors la Ligue, nous avons travaillé en partenariat avec la Ligue contre le cancer pour trouver les bons éléments, pour trouver les vrais chiffres, les vrais méfaits. Et donc tout ce qui est dit dans ce texte est vrai, excepté donc j'ai mis ce texte en 2020. Donc la fiction, c'est que la cigarette est abolie. Voilà, donc ça, c'est une pure invention. Je ne sais pas si c'est prémonitoire, nous le verrons dans quelques années. Alors, les éditions du Lambrequin, j'aurais voulu que Pierre Pelot soit là, mais il a dû avoir un petit souci. Les éditions du Lambrequin sont nées l'année dernière, pour répondre à la demande d'écriture théâtrale pour la jeunesse. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas une maison d'édition qui soit uniquement spécialisée dans l'édition théâtrale pour la jeunesse. Toutes les maisons d'édition en font un peu, mais n'ont pas fait leur cheval de bataille. Donc nous avons la prétention de mener à bien ce projet, parce qu'il y a un réel manque de textes pour la jeunesse. Souvent, les gens qui écrivent sont des écrivains, ce ne sont pas des metteurs en scène, ce ne sont pas des comédiens. Et il y a un manque, parce que quand on écrit, il faut connaître le rythme, il faut savoir comment entrer et sortir. Il n'y a pas que le discours qui compte, il y a tout le jeu. Et donc, savoir comment un enfant va pouvoir dire le texte, comment un enfant va pouvoir jouer le texte. Et ça, je suis persuadée qu'il faut être du métier pour qu'un texte soit bon. Avant de créer cette maison d'édition, avec Pierre Pellot, nous avons fait le tour de toutes les maisons d'édition existantes. Nous sommes allés à la librairie théâtrale à Paris, 3 rue de Marivaux, et nous avons acheté une centaine de livres d'auteurs connus et inconnus, et nous avons analysé ces 100 textes, et sur les 100 textes, il n'y avait que 20 qui tenaient la route. 80 étaient à mettre à la poubelle. Pourquoi ? Parce que c'était vulgaire, souvent. Or, moi, j'estime qu'en tant qu'éducateur, la vulgarité, il y en a assez dans notre quotidien, on n'a pas à mettre ça dans les livres. Donc ça, c'est la première chose. Et après, les sujets, il faut trouver des sujets qui plaisent aux enfants. Et souvent, d'écrivains qui ne sont pas eux-mêmes comédiens ou metteurs en scène, ce sont des sujets qui sont pris, qui ont certainement leur côté positif. Mais moi, je ne peux pas le mettre en scène avec des enfants, ce n'est pas possible. Alors, donc, la maison d'édition est ouverte, bien sûr, à tout écrivain de théâtre qui tienne la route. Donc, cette année, nous allons éditer un Zaïrois qui s'appelle Nestor Zinzou et qui est exilé politique à Bayreuth et qui fait un énorme travail théâtral en partant du conte traditionnel. Donc, nous avons choisi de l'éditer cette année. Voilà. Et bien sûr, nous sommes ouverts donc à toutes les propositions qui vont nous arriver.